Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h,
le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2
sur Canal Sud.
92.2.
Rencontre avec Elsa Dorlin et Mathieu Rigouste autour du livre coécrit avec Jean-Pierre Sainton, Guadeloupe, mai 1967, Massacré et laissé crever, paru aux éditions Libertalia, le 11 avril 2023 à la librairie Terra Nova.
Bonsoir à toutes et tous, merci d'être là. Merci Elsa et Mathieu, donc Elsa Dorlin et Mathieu Rigouste, qui viennent nous présenter un livre qui va sortir, je vais changer de micro, qui va sortir dans une semaine, mais qui est déjà ici à la librairie. Donc, Guadeloupe, mai 67, sous-titré « Massacrer et laisser mourir ». Voilà, donc en avant-première. On est ravis d'accueillir à nouveau Mathieu et Elsa à Terra Nova. Merci de votre confiance. Voilà, présentation du livre. Puis ensuite, évidemment, comme d'habitude, un petit échange avec vous. Bonne soirée. Merci.
Donc, bonsoir. Merci beaucoup et merci d'être là et merci à Terra Nova. je suis très contente avec Mathieu Rigouste de présenter ce livre en fait, qui est très important, qui est issu à l'origine d'une journée d'études qui avait eu lieu en mai 2017 à l'Université Paris 8 et qui était sur... une journée de commémoration des massacres d'État, massacres républicains en Guadeloupe en mai 67 et largement ignorée en fait à la fois évidemment des départements de philosophie, de sciences politiques ou de sociologie en France hexagonale, mais également en quelque sorte largement oubliée, je dirais, de la mémoire des luttes à un moment en 2017 où on était dans un contexte un peu particulier, un contexte politique particulier, et où s'est mis en place, à l'occasion de la fin de la mandature de la présidence Hollande, des commissions d'enquête, notamment d'une commission d'historiens, présidée par l'historien Benjamin Stora, et qui avait été mandaté par le gouvernement français de rouvrir un certain nombre de dossiers, et en particulier le dossier de mars-mai 1967 en Guadeloupe, sur lequel on va largement revenir ce soir, mais dans lequel aussi il y avait les exactions policières qui ont eu lieu lors des mouvements en Martinique en décembre 1959, sur lesquels on va également revenir, et également l'accident d'avion qui a eu lieu et dans lequel, là encore, un certain nombre de militants sont morts dans cet accident. Donc il y avait trois grands dossiers de la commission Stora, et parmi lesquels mai 67. Et dans ce rapport, pour la première fois, était mentionné le fait qu'il s'agissait bien d'un massacre d'État. Et c'était cet enjeu politique, au fond, sur lequel on est revenu. Et puis, à l'occasion de cette journée à l'Université Paris 8, où on était un certain nombre de chercheurs, à la fois philosophes, sociologues, historiens, socio-historiens, et de la Caraïbe, et finalement travaillant depuis longtemps, notamment évidemment Mathieu, sur l'ensemble de l'histoire des archives de la pensée des technologies contre-insurrectionnelles sur le XXe siècle, en particulier en Algérie. Il se trouve qu'à l'occasion de la journée de mai 67, le préfet qui est en place lors des événements de mai 67, où les forces de l'ordre donc, ciblent et tuent des militants dont le nombre est encore inconnu à ce jour. Le préfet qui est en place est le préfet Bolote. Et le préfet Bolote a été en place en Algérie quelques mois auparavant, avant d'être en Guadeloupe. Et quelques mois après les événements, donc le massacre de 67 en Guadeloupe, il va être renvoyé en France hexagonale et il va être le premier préfet de Seine-Saint-Denis, qui est un département qui a été créé en 1971. Et à l'occasion de la création de ce département de Seine-Saint-Denis, c'est lui qui crée également les unités de la BAC. Donc pour nous, il était, c'était comme une sorte d'incarnation, de symbole absolu de cette circulation et de cette appréhension d'un continuum en fait, du colonialisme. Et ce qu'on a travaillé depuis longtemps avec Mathieu aussi comme des formes de gouvernementalité impériale. Et donc c'est là-dessus qu'on portait beaucoup nos débats. Donc voilà, je vais laisser la parole à Mathieu. Juste pour vous dire, il y a trois textes dans le livre. Moi, j'y contribue, je le dirige, mais c'est vraiment trois co-autrices auteurs, en fait, à égalité, puisque c'est trois textes très importants. Il y a un texte de Jean-Pierre Sainton, qui est historien, spécialiste de la Caraïbe, en particulier de l'histoire de la Guadeloupe, et qui est le fils de Pierre Sainton, qui est un des membres fondateurs du GONG, qui est un mouvement révolutionnaire anticolonial guadeloupéen et plus largement une des grandes figures du mouvement indépendantiste intellectuel et politique guyano-antillais. Mathieu Rigouste, évidemment, qui est là, que vous connaissez, qui intervient en particulier sur ce parcours de Bolote et moi qui reviens sur les décennies 50-60. Et Jean-Pierre Sainton, le texte est à la fois une histoire très très précise des événements de mars et mai 67, mais aussi une réflexion, puisqu'il est le fils d'un des protagonistes de cette révolution guadeloupéenne. Donc voilà, je laisse la parole à Mathieu et merci encore.
Merci Elsa d'avoir coordonné ce projet, de l'avoir initié même. Et à Terra Nova de nous accueillir. Je fais de la recherche indépendante en sciences sociales. Je ne sais plus exactement ce que ça veut dire. Mais l'idée, c'est de faire des outils depuis les luttes, parce que dans les approches critiques en sciences sociales, y a sans doute des choses qui nous permettent de comprendre les systèmes de domination auxquels on fait face, mais qui nous fabriquent aussi. Et donc, sans doute de quoi outiller nos luttes. De toute évidence, dans les travaux d'Elsa et dans la manière dont nos travaux dialoguent ensemble depuis un certain temps, il y a cet enjeu-là, d'essayer de mieux comprendre à quoi on fait face pour agir et pour transformer la situation, pour transformer nos conditions de vie, mais aussi pour essayer de rompre avec ce qui apparaît comme des systèmes. Et c'est peut-être ça aussi qui est intéressant dans les approches critiques en sciences sociales, c'est quand on arrive à se rendre compte qu'il y a du système, le système, ça ne tombe pas du ciel. Donc s'il y a du système, c'est qu'il est fabriqué, entretenu, reproduit, donc on peut intervenir. Et il y a sans doute des interstices, des failles, au moins des moyens de s'organiser pour se défendre et puis pour essayer de changer les choses. J'ai pas dit depuis combien de temps parce que ça m'est pas venu comme ça, on a souri, mais en fait je pense que c'est quand même intéressant. La première fois qu'on s'est croisé avec Elsa, c'est un plateau de France Culture. Donc moi je sortais un livre qui était tiré de ma thèse qui s'appelle L'ennemi intérieur et où je commençais à développer cette thèse qui consistait à l'époque à dire, notamment pour la situation française, mais en fait, depuis, il y a eu des travaux qui posent des modèles assez similaires dans pas mal d'autres pays, notamment du bloc transatlantique, du bloc impérialiste occidental, et qui consistait à dire que lorsqu'on regarde l'évolution des technologies de savoir et de pouvoir qui ont été mises en place par l'armée française dans les guerres d'Indochine et d'Algérie, on retrouve des dispositifs, des modèles, des schémas, des idées, des pratiques, des techniques qui évoluent, qui sont réagencées et qui viennent nourrir la manière dont la police intervient dans les quartiers populaires, dans les prisons et met en place la politique des frontières. Et qu'en gros, il ne s'agissait pas de dire qu'il y a une importation telle quelle d'un modèle qui serait... il ne s'agit pas de dire que c'est la bataille d'Alger dans les quartiers populaires aujourd'hui, mais de dire qu'il y a des continuités dans le temps et dans l'espace, et qu'il y a des échanges, des transferts. Et puis finalement, qu'en fait, on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui en termes de surveillance, de contrôle et de répression si on ne l'aborde pas dans sa dimension impériale, c'est-à-dire de regarder ce qui se passe dans les territoires colonisés. Et puis aussi de poser cette hypothèse-là qu'il y a du colonial à l'intérieur et ce n'est pas juste des traces. Ce n'est pas juste du post-colonial. Y a ça. Y a des imaginaires hérités. Il y a des persistances d'idées dans la culture, dans les représentations, dans les clichés, etc. Mais l'idée, c'est de dire qu'il n'y a pas que ça. Et que sans doute, s'il y a ça, c'est parce qu'en fait, il y a de la structure en dessous et que cette structure, si on est dans des sociétés qui... sont aussi ostensiblement racistes et organisés autour de la division raciale du travail, du logement, de la santé, de tout, c'est parce qu'il y a une structure interne, il y a une forme de colonialité interne. Et d'ailleurs, le sous-titre de ce livre, « L'ennemi intérieur », faisait un clin d'œil explicite à l'un des livres importants d'Elsa. Donc le sous-titre de l'ennemi intérieur, c'était la généalogie coloniale et militaire de l'ordre sécuritaire dans la France contemporaine. Et le sous-titre de la matrice de la race, c'est la généalogie coloniale et sexuelle de la nation française, si je ne fais pas d'erreur, qui est, comme vous devez le savoir, un monument en termes d'outillage de nos luttes dans la séquence contemporaine. Et donc, depuis ce moment-là, je pense que nos travaux, nos manières d'aborder le sujet ont dialogué ensemble. En tout cas, moi, j'ai travaillé en lisant Elsa régulièrement. Je crois qu'on s'est déjà dit aussi que la domination policière et se défendre, d'une certaine manière, un petit peu se discuter ensemble, ou en tout cas se renvoyer des idées... Et voilà. Donc dans cette histoire-là, et qui est une histoire qui est pas actuelle entre nous, hein, c'est une histoire. Il y a eu l'ouverture d'un champ théorique, politique, et scientifique sur les questions de colonialité interne, sur des approches critiques de la race, du genre, et articulées à la question du capital dans ces 15-20 dernières années. Et voilà. Et donc dans toute cette histoire-là. On fabrique des outils et je crois que c'en est un important qui vient participer de cette histoire-là. Notamment parce qu'encore une fois, on parle d'un massacre d'État, d'un crime colonial qui a été largement dissimulé. Je ne sais pas s'il y a des personnes guadeloupéennes ici, mais peut-être juste s'il y a des personnes non guadeloupéennes, est-ce que vous aviez entendu parler de mai 67 avant ces derniers temps ou... Bon, encore une fois, on est face à un système de dissimulation aussi de la violence coloniale. Et puis bon, on en a rediscuté là, mais ça se passe pour octobre 61 aussi. En fait, on est dans des configurations où de toute façon, on saura jamais le nombre de morts parce que la configuration coloniale fait. Et d'ailleurs, ça vient de dialoguer avec des trucs par rapport à Sainte-Soline récemment, mais fait que les gens, de toute façon, une partie n'ont absolument aucune confiance et ils ont raison de ne pas amener leurs blessés ou leurs morts dans les hôpitaux parce que en fait, c'est un risque de croiser à nouveau les forces de police, gendarmiques, etc. Et donc d'être interpellé, que ça vienne toucher la famille, que ça crée des affaires encore plus douloureuses. Et donc, bon, dans ces configurations-là, on ne peut pas savoir le nombre de morts, mais on est confronté à... sans doute des dizaines de morts sur ce massacre colonial. Et il s'agirait aussi de faire attention à ne pas effacer le fait que cette dissimulation, elle dissimule aussi le fait que la répression coloniale est une répression qui ne tourne pas dans le vide, elle vient briser des résistances, elle vient briser des luttes, elle vient tenter de briser des luttes, elle vient tenter de briser des autonomies. Et donc, on n'est pas juste face à une population qui serait victime de quelque chose comme ça, qui tournerait sans son agentivité, il faudrait qu'on trouve un autre mot que ça. Sa puissance, son intelligence collective, etc. Ses capacités d'organisation. Bon, et donc, dans toute cette histoire qui se passe un petit peu dans les marges des universités, qui se passe aussi dans la rue, qui se passe dans... Je pense qu'il traverse aussi l'histoire du mouvement décolonial, d'une certaine manière. Elsa est venue me parler du fonds d'archives du préfet Bolotte, qui est conservé à la bibliothèque de Sciences Po à Paris. Moi, je connaissais un petit peu Bolotte parce que j'en avais parlé dans La domination policière et que, en fait, son parcours avait été un petit peu repéré. On savait cette histoire-là, qu'il était passé par l'Indochine. On ne savait pas qu'il y avait effectivement... C'est la fondation de sa carrière, quand même. On savait surtout qu'il avait été en Algérie, qu'il avait été en Guadeloupe en mai 67 et qu'il était dans l'histoire de l'invention de la banlieue, on pourrait dire, entre guillemets. Et en fait, comme beaucoup de préfets, moi, j'avais pas travaillé sur des archives administratives comme ça. J'avais beaucoup travaillé sur des archives militaires. Il y a des choses en commun et d'autres qui sont complètement différentes. Mais par exemple, j'ai découvert que beaucoup de préfets, en fait, quand ils quittent leur poste, ils embarquent avec eux toute une partie des archives parce que ça a de la valeur, parce qu'il y a souvent des choses gênantes pour eux, parce que ça évite d'être sûr qu'il n'y a pas des choses gênantes qui vont traîner, etc. Et donc le préfet Bolotte a embarqué tout au long de sa vie une partie de ses archives et qui ont fini à la bibliothèque de Sciences Po Paris. Et donc sur cette proposition d'aller travailler un peu plus dessus, j'y ai passé quelques journées. Le fond n'est pas gigantesque, enfin, c'est-à-dire en quelques journées complètes, on peut l'avoir traversé en entier. Mais il est, j'allais dire, il est riche. Enfin, c'est difficile d'utiliser ces termes-là quand c'est du papier qui est taché de sang, quoi. En tout cas, sur les questions qu'on se posait, sur la manière dont les dispositifs de répression coloniale circulent, c'est un fonds d'archives qui est exemplaire, disons, au sens de quand on dit que l'immigration algérienne est exemplaire. C'est-à-dire, à travers ce fonds d'archives-là et à travers son parcours, on a accès à des mécaniques, à des dynamiques, à des choses qui nous parlent d'un fonctionnement plus général, même si, effectivement, tous les préfets n'ont pas ce parcours-là. Et pourtant, Elsa vous en parlait, elle a approfondi la question depuis... Enfin, ce qu'elle soulève dans son texte tend à nous montrer que c'est peut-être encore plus régulier et systématique même que ce qu'on imaginait. C'est-à-dire cette idée que, en fait, les préfets, mais comme une grande partie des cadres de l'administration coloniale et des états-majors militaires, font une partie de leur carrière dans les colonies. Et puis, vont valoriser leur carrière de cette manière-là. Et puis, à un moment, vont être en place en métropole et vont domestiquer ces savoir-faire. Et en général, on va leur donner ce poste-là parce qu'on leur reconnaît une excellence dans le domaine. Et cette excellence dans le domaine, en général, ça consiste à avoir écrasé toute forme de rébellion, d'insoumission en territoire colonisé. Et voilà. Et donc, dans ce fonds d'archives, alors il y avait des archives qu'il avait emportées avec lui, et puis il y avait une autobiographie qui n'a pas été publiée, et qui, bon, toutes les archives, hein, il faut les aborder de manière critique, que ce soit une archive administrative, il y a des filtres, il y a des niveaux de langage, on ne raconte pas tout, évidemment, c'est à croiser avec d'autres sources, et dans une autobiographie, évidemment aussi. Je me rappelle d'une chose un peu intéressante, c'était que la documentaliste en charge du fond m'avait accueilli avec une espèce de... Elle avait l'air de vouloir être sûre que je n'allais pas raconter des choses méchantes sur Bolotte parce qu'elle avait l'air de bien l'aimer. Et elle voulait me rassurer un peu en me disant « mais c'est quand même quelqu'un de gauche ». Et ça, ça a été important parce que, en fait, quand on travaille sur l'histoire générale de la contre-insurrection, c'est effectivement quelqu'un qui se positionne comme étant une sorte de modéré face aux Trinquiers, Lacheroy, aux Sarès, Bijard, etc. Sachant que c'est quelqu'un qui, là, on parle de quelqu'un qui a dirigé un massacre d'État en Guadeloupe où il y a plusieurs dizaines de morts. C'est quelqu'un qui, pour cette documentaliste de Sciences Po, qui est sûrement érudit dans plein de domaines, restait comme quelqu'un qui avait fait en sorte de maintenir l'ordre de manière républicaine, comme on dit dans les médias où on parle comme ça. Bon, ça m'avait marqué, et effectivement, c'est quelqu'un qui se positionne comme étant dans les fractions d'experts de la contre-insurrection, qui étant quelqu'un qui a tenté de maîtriser le domaine de la terreur et pour jouer plus sur l'action psychologique, comme on dit. Il y a deux pôles principaux en contre-insurrection, la terreur, torture, internement, disparition de masse, et la conquête des cœurs et des esprits par des hiérarchies parallèles, des structures psychosociales, socioculturelles, de la propagande, etc. Bon, voilà un petit peu. Donc j'ai lu tout ce que je pouvais dans ce fond, et puis je l'ai croisé avec mes travaux, avec ce que j'avais déjà observé dans l'ennemi intérieur et dans la domination policière. Et donc j'ai évidemment reconnu énormément de choses qui sont typiques des doctrines de contre-insurrection. Et puis il y avait des spécificités, un petit peu comme tous les ingénieurs dans les champs de pouvoir. En fait, ces gens-là en fait se retrouvent à des positions de pouvoir où ils peuvent expérimenter des choses. Et donc ils ont leur propre lecture de la réalité, des conflictualités. Ils se considèrent étant ils se positionnent dans le champ comme étant eux particuliers. Et donc il a effectivement ses particularités. Je vais vous donner juste quelques pistes comme ça pour pas m'éterniser. Mais donc il fait le début de sa carrière, c'est en Indochine, et c'est auprès des hauts cadres de l'armée française qui dirige la, comme on dit, pacification là-bas, et qui est déjà une industrie de la terrorisation militaro-policière avec des systèmes de disparition, torture. Massacres, etc., internement dans des camps, etc. Et donc, il est en tant que jeune officier, il participe de ça, et ça va être le début de sa carrière. On va lui reconnaître une valeur parce qu'il a participé à ça. Et donc, à la suite de ça, il va être envoyé en Algérie, à sa demande. Ça l'intéresse, ça le passionne, mais aussi, c'est ça, une carrière de préfet. Et il va avoir plusieurs fonctions en Algérie, et donc notamment il va être en charge de la pacification dans le secteur de Miliana, mais il va aussi, et c'est ça qu'on n'avait pas vu, en tout cas moi que j'avais pas vu avant de mettre le nez dans ses archives, c'est qu'en fait il va participer directement à la dite bataille d'Alger, au dispositif de protection urbain qui est le modèle absolu de la contre-insurrection dans le monde entier, jusque dans la doctrine de l'OTAN aujourd'hui. Il cite encore ce modèle français, ce modèle que l'armée française a déployé pendant la dite bataille d'Alger. Et donc il y participe en tant que spécialiste du maintien de l'ordre policier. Et notamment, il va y développer quelque chose entre Miliana et Alger. Il va y développer, et il s'en vante dans son autobiographie, il y a des traces de ça. Il raconte qu'il a cette idée. Alors bien évidemment, ça ne vient pas juste de lui. Il a vu ça ailleurs dans l'histoire coloniale. Mais du coup, il a aussi les mains libres pour le faire, de créer des petits commandos d'hommes en armes, des petits groupes mobiles de 3, 4, 5 policiers ou militaires mélangés, et qu'on va laisser libres d'agir dans la rue pour aller chercher les Felagas, pour aller chercher les Mujahideen, les résistants, et puis en fait aller arrêter un petit peu n'importe qui dans la population pour terroriser, mais aussi avec cette idée qu'il faudrait saisir les subversifs dans la population pour la purger de ça. Donc ça, c'est vraiment la grille de lecture contre-insurrectionnelle. Et donc, il va devenir une sorte d'ingénieur dans ce domaine-là. Son nom n'a pas été retenu pour ça à l'époque, mais à l'intérieur de l'État, il est reconnu désormais comme un ingénieur dans ce domaine-là. Et c'est ce qui va faire notamment qu'à la suite de ça, on va lui donner d'autres postes en territoire colonial. Alors, tout à l'heure, il passe rapidement à La Réunion, mais justement pendant cette période où l'idéologie raciale, démographique règne, et où on considère que pour empêcher un mouvement indépendantiste à La Réunion, il faut contrôler les naissances, contrôler le corps des femmes, et puis mettre en place une politique de dépopulation. Il va participer à ça, pas en gérant un massacre, mais en tant que préfet. Et à la suite de ça, il va être installé en Guadeloupe quelques mois avant. Donc, je crois qu'il est installé en fin 66, quelque chose comme ça. Dans un contexte de grave de crise à tous les niveaux. Enfin, la situation coloniale est catastrophique pour les habitants. Et donc il va, si vous voulez, on reviendra dessus après, comme ça on avance, mais il va y diriger les opérations qui sont mises en œuvre correspondent en large partie à ce qu'on connaît des plans de contre-insurrection en général. Et notamment, il va utiliser la gendarmerie, qui est une force militaro-policière. Bon, mais ça, c'est un invariant dans les territoires coloniaux. Mais il va utiliser une manière de quadriller le territoire, d'envoyer ces unités-là, purger la population en cherchant des subversifs, etc. Il va déployer une grille de lecture contre-insurrectionnelle. Et dans ses archives et dans sa biographie, il utilise les termes habituels. C'est évident qu'il est dans cette grille de lecture-là. Et il rend compte de ce qu'il est en train de faire. Donc on voit aussi dans les archives qu'il n'est pas en roue libre, hein, tout seul comme ça, en train de délirer. Il rend compte à Focard, l'un des gestionnaires du système de la France-Afrique et de la restructuration néocoloniale, et qui valide ce qu'il fait. Et puis Focard lui-même rend compte à De Gaulle. Et donc il est encadré. Et voilà, ça va déboucher sur un massacre dont on a parlé. On pourra revenir dessus tout à l'heure. Et donc, encore une fois, c'est pas une bavure, comme si c'était un dysfonctionnement du système. Il a fait exactement ce pourquoi on lui avait mis à ce poste-là, ce pourquoi on lui reconnaissait une valeur et une expertise. Et on va lui reconnaître le fait qu'il a fait le boulot. Il y a des contradictions internes avec Focard, qui est d'une famille de grands gestionnaires, de grands capitalistes de la banane aux Antilles. Et donc, Guadeloupéen, oui.
Il y a une rue Focard.
Incroyable. Et il va y avoir des petites contradictions internes qui font que pendant quelques mois, Focard va le laisser sur le côté, mais finalement, il va être reconnu dans cette expertise-là. Et donc, il va être en charge de la préfecture d'un nouvel arrondissement qui est pensé à ce moment-là, qui est pensé encore une fois, le redécoupage et l'invention de la banlieue parisienne à ce moment-là est pensé sous un angle contre-insurrectionnel. Il s'agit de briser les banlieues rouges, comme on disait à l'époque, et pour ça de reterritorialiser les gestions municipales. Et donc on va inventer des nouveaux départements, et notamment un département qui est explicitement dit comme un département laboratoire, qui va être le 93, la Seine-Saint-Denis. Et donc on va donner à cet homme-là la mission d'être le premier préfet de ce département, et donc il va avoir en charge, et c'est clairement dit comme ça, de pacifier ce nouveau département où les problématiques générales qui sont données à l'époque, donc on est au début du néolibéralisme, et donc la fabrication progressive du chômage de masse aussi. On va lui demander de pacifier ces quartiers populaires qui sont en voie de précarisation, mais qui sont aussi des lieux de politisation communiste en général, en tout cas avec des municipalités communistes, et puis avec sans doute une partie de la classe ouvrière plus rouge que leur municipalité, et puis avec la problématique de la question de la présence de familles, de travailleurs issus de l'immigration, et notamment de l'immigration coloniale. Et ça, c'est très clair dans les archives, qu'on le met à ce poste-là parce qu'on lui reconnaît une expertise dans ce domaine-là, dans le domaine de la pacification des damnés de la terre. Et il va mettre en place... Alors, ce n'est pas lui qui crée les BAC, mais c'est lui qui dirige la création des BAC. Il y a un officier de police qui va gérer ça. Mais donc, lui est au-dessus, et donc, lui, il va assurer la fusion entre ce qu'il avait inventé un petit peu, là, ces commandos de police... relativement autonomisé en Algérie, et les enjeux du néolibéralisme c'est-à-dire d'avoir des unités proactives, mobiles, rentables, qui font du chiffre, etc. Voilà, et du coup, il est aussi exemplaire de ce point de vue-là, c'est-à-dire que dans la colonie intérieure, dans le territoire endocolonial, s'expérimente une fusion, une rencontre entre le régime de pouvoir colonial et la restructuration néolibérale du capitalisme. Voilà, merci.
Pour revenir du coup peut-être sur le contexte de mai 67, en fait les journées de mai 67, 25, 26, 27 mai 67, se mettent en place dans le cadre d'un grand mouvement de grève, notamment des dockers à Pointe-à-Pitre, mais en fait fait l'écho à un incident qui a eu lieu en mars 1967, à Basse-Terre, qui est une altercation raciste entre un tenant de magasin, d'ailleurs, il me semble pied noir, c'est un 59 en Martinique, et un Guadeloupéen, avec des insultes et une agression d'un tenant de magasin sur Basse-Terre qui va déclencher en fait un soulèvement et une contestation très importante sur toute l'archipel. Les choses, plus ou moins, sont mises sous cloche dans un contexte social qui est particulièrement difficile. C'est vraiment un contexte où toute la question de la départementalisation dont font l'expérience l'ensemble des populations réunionnaises, guyano-antillaises, a été en fait une attente sans fin d'une égalité de droit qui n'est jamais venue, qui a été promise et qui n'est jamais là, et la continuité d'un système esclavagiste ou post-abolitionniste en fait, qui perdure par d'autres moyens, c'est-à-dire une exploitation de la monoculture de canne, une paupérisation des populations et une absence totale en fait, d'infrastructures ou même... justement d'intervention en quelque sorte d'une égalité d'une égalité des citoyens français et d'une égalité surtout des territoires en fait. La question de la départementalisation où Aimé Césaire déclare d'ailleurs dans la décennie immédiatement au début des années 60 en fait je me suis trompée, voilà. La question sociale et économique en Guyane et en Guadeloupe, en Martinique, et dans une forme vraiment de continuité de l'esclavage par d'autres moyens, de ce qu'on appelle le post-abolitionnisme. Et dans ce contexte-là, naît également dans un mouvement global et international de lutte pour les indépendances, un mouvement intellectuel, social, politique, syndical, indépendantiste, donc là, on va parler essentiellement de la partie guyano-antillaise, avec à l'intérieur de ce mouvement des positions qui sont différentes. D'abord des mouvements indépendantistes, anticoloniales, anti-impérialistes et révolutionnaires, qui sont dans une forme d'effervescence intellectuelle très forte, dont on a connu en quelque sorte, ou dont on a retenu que peut-être trois noms aujourd'hui. Aimé Césaire, Frantz Fanon et Édouard Glissant. Mais derrière Glissant, Fanon, Césaire, en fait, c'est une myriade d'intellectuels et d'intellectuels et de militantes et de militants. Et sur des positions qui sont soit autonomistes, soit indépendantistes, qui sont soit tiers-mondistes, révolutionnaires, et donc en lien également avec ce qui se passe à Cuba, mais ce qui se passe en fait dans toute la Caraïbe. Avec l'indépendance dans cette décennie, même si les indépendances n'ont pas été octroyées ou obtenues de la même façon dans des contextes politiques tout à fait différents, mais quand même avec toute l'archipel caribéenne, en fait, ou toute l'ère caribéenne qui obtient l'indépendance. Donc la Guadeloupe, la Martinique et à plus forte raison la Guyane, sont dans une situation géopolitique tout à fait particulière, dans un contexte également où en fait l'Algérie française est en train d'être perdue et qu'une partie en quelque sorte de l'état-major et du gouvernement, même s'ils mettent en place un nombre incalculable de forces matérielles, financières, humaines et idéologiques pour maintenir l'Algérie, de fait, sur les années 65, En tout cas, les choses sont plus ou moins... Il y a une forme d'inquiétude et il y a une sorte de repli, en quelque sorte, sur les vieilles colonies françaises qui, elles, resteront en permanence fidèles, en quelque sorte, à la France. Donc on est dans ce contexte vraiment explosif. Et en mai, une grande grève des dockers intervient à Pointe-à-Pitre, qui engage une grève en passe de se généraliser. Il y a une négociation avec le patronat sur la question, en fait, tout simplement du taux horaire et donc de la journée du salaire, quoi, journalier. Et cette négociation échoue, mais une partie des troupes françaises sont déjà sur place depuis mars, où on sait que dans toute cette ère-là, il y a des mouvements autonomes, insurrectionnels, révolutionnaires, qui se préparent et qui sont sur des liens avec Cuba, avec le Sénégal, etc. Donc, des deux côtés, on peut dire, de l'Atlantique, une forme d'international indépendantiste qui se met en place. Et dans ce cadre-là, en fait, les négociations échouent avec le patronat, les syndicats de travailleurs quittent la table de négociation et la foule s'est rassemblée dehors pour soutenir les travailleurs et les syndicalistes. Et dans cette foule, il y a un certain nombre de leaders, notamment de groupes indépendantistes et notamment du GONG, qui est un des groupes les plus importants, qui a été fondé quelques années auparavant à Paris par Pierre Sainton, le docteur Pierre Sainton, avec une partie de la diaspora guyano-antillaise intellectuelle et en particulier investie, qui sont à ce moment-là à Paris et qui fondent le GONG. Et une partie est de retour en Martinique, en Guyane et en Guadeloupe. En tout cas, sur mai, là, les syndicalistes sortent et annoncent que la négociation a échoué. Il y a un mouvement de foule parce qu'on prête au patronat d'avoir dit quand ils crèveront de faim, ils retourneront travailler. Et qu'ils crèvent les nègres, et quand les nègres crèveront de faim, ils retourneront au travail. Et à ce moment-là, il y a un mouvement de foule et les compagnies de CRS qui sont ici à ce moment-là et la police qui est là tirent, ouvrent le feu sur la foule qui balance des conques, des lambis, des coquilles de lambis, comme ça, et ciblé en premier deux leaders, un leader du GONG et un leader, un militant, etc. Ils vont être ciblés comme ça sur 3 jours. Des militants, des syndicalistes, également des passants, également des personnes qui étaient juste venues manifester. Mais en fait, ce qui caractérise mai 67, donc où on parle de plusieurs dizaines de dizaines, non seulement de morts, mais de blessés, de corps disparus, et surtout d'un certain nombre de personnes qui ont été torturées dans les caves de la préfecture de Pointe-à-Pitre. Ce qui est particulièrement saisissant dans ce qui se met en place à ce moment-là, c'est l'idée d'un crime républicain, mais qui est aussi un ciblage, c'est-à-dire la volonté de démembrer et de décapiter une révolution indépendantiste, c'est-à-dire un mouvement indépendantiste, qu'on a tendance à complètement désaffilier, en quelque sorte, lorsqu'on parle Guyane, Martinique, Guadeloupe. On oublie, en fait, cette force intellectuelle du mouvement indépendantiste et cette force sociale et politique de l'indépendance. Et dans ce cadre-là, ce qui était... important, c'était pas d'isoler mai 67, c'était de réinscrire mai 67 dans 2 décennies insurrectionnelles et à la fois de production philosophique très importante, au-delà des figures tutélaires que sont Césaire, Fanon et Édouard Glissant. Et l'important, c'était de rappeler qu'il y a eu, en fait, si on ne prend que 2 décennies, encore une fois, décembre 59, 61, juin 62, 67, et ensuite on peut aller jusqu'à 74 en Martinique, sur le passage, en fait, de la grève, des premières grèves de la banane, qui vont être elles aussi réprimées dans le sang en Martinique avec les hélicoptères et le fait de tirer à vue également sur des manifestants. Donc c'est la répression ultra brutale et mortifère. Et on est parti de l'idée qu'il fallait penser justement de nouveau avec Foucault, en quelque sorte, et contre Foucault, puisque Foucault s'en est un peu foutu de cette question, de dire on va travailler le concept de gouvernementalité, et notamment ce qu'on a travaillé dans nos travaux plusieurs fois, au long cours, etc., de gouvernementalité coloniale ou de gouvernementalité impériale. C'est-à-dire de reprendre le concept de biopolitique, faire vivre et laisser mourir, et d'essayer de refaire l'histoire en quelque sorte de la biopolitique, c'est-à-dire comme un dispositif de gouvernement, un type de pouvoir qui est propre à la modernité, et de le faire depuis l'Empire, depuis les territoires guyano-antillais. Et de ce point de vue-là, on assiste à cette idée que c'est pas quelque chose... On n'a pas l'idée d'un pouvoir aveugle qui massacre, qui pille, etc. On a vraiment cette idée que on laisse mourir de mille façons par l'assassinat ciblé, mais aussi par toute une modalité d'exploitation où les vies guyano-antillaises font vivre concrètement d'autres vies et sont mises à mort, en quelque sorte, lentement aussi, dans cette idée de désaffiliation historique, d'amnésie historique, c'est-à-dire quand l'idée de décapiter un mouvement intellectuel et politique et syndical, c'est aussi l'idée d'empêcher la mémoire et de ne pas faire de précédent, en fait. Il y a toute cette question de la mémoire enfouie, le fait de ne pas pouvoir dire, le traumatisme dans la société guyano-antillaise. Et il y a cette question, en fait, de faire mourir les morts plusieurs fois. Et ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, évidemment, pas de commémoration, pas de réparation. Mais il y a cette question de, en quelque sorte, ne jamais savoir combien il y a eu de morts exactement. Ça veut dire rendre fou, à proprement parler, une population ou rendre fou un mouvement politique. Donc par le fait d'empêcher d'avoir accès au nombre exact de victimes, empêcher de pouvoir parler, en fait, de pouvoir réclamer un corps ou de pouvoir se recueillir sur la mort ou l'indécien, de pouvoir se reconstituer dans une mémoire politique, collective et familiale. Et il y a cette idée de rendre fou aussi par le fait que il y a toute une rhétorique, ou plus exactement, en fait, il y a toute une machine idéologique de la gouvernementalité impériale sur le massacre, qui va être cette idée que, en quelque sorte, les syndicalistes, les militants, les intellectuels, parce que ensuite je vous parlerai d'un autre événement, se sont trouvés là au mauvais moment, au mauvais endroit. Ce sont des balles perdues. Où ils sont responsables de la répression dont ils ont été victimes, puisqu'il s'agissait d'une foule devenue folle et étant particulièrement dangereuse. Et c'est probablement dans cette configuration, d'ailleurs, de décembre 59 en Martinique et de mai 67 en Guadeloupe. Décembre 59, c'est à peu près la même configuration. La police ouvre avec une mitraillette sur les grévistes. Et l'idée, c'est que pour la première fois, en tout cas à ma connaissance, mais peut-être je me trompe, dans ce contexte-là, je veux dire de la contemporanéité républicaine, on parle de racisme anti-blanc. Et d'où l'idée du racisme anti-blanc qui, donc on veut protéger en quelque sorte les populations métropolitaines ou béquées, en l'occurrence, à l'intérieur même du contexte martiniquais ou guadeloupéen. Donc cette idée que on vient, en fait, c'est les vies blanches qui sont menacées et donc qui autorisent un droit de mise à mort. Et ça, donc qui est, vous voyez bien que c'est une forme de fabrique du déni, en fait, de la question du racisme structurel qui impacte, en fait, chaque corps et chaque vie à tous les, dans tous les stades, toutes les strates, en fait. De son histoire à la fois personnelle et sociale. Et donc c'est une autre des questions, enfin des dimensions. Mais on a beaucoup insisté sur cette idée du rendre fou, le fait d'affoler comme technique justement contre-insurrectionnelle, c'est-à-dire comment massacrer un mouvement en impactant. En blessant ou en les corps, mais en impactant psychiquement, en créant des formes de folie ou de désorientation. Un exemple qui est particulièrement notable, c'est qu'en juin 62, il y a un Boeing 747 qui s'abîme à Déhay, en Guadeloupe, sur le Morne d'Anne. Et dans ce Boeing était un député guyanais, Justin Kateyé, très important, très vraiment grande figure, grand protagoniste, député intellectuel indépendantiste guyanais, avec des textes très forts. Et Albert Béville, autre grande figure intellectuelle guadeloupéenne, indépendantiste, dont on a complètement oublié et les textes et la mémoire. Et Albert Béville, qui est vraiment... dont j'ai essayé de re-escaver dans le contexte aussi qui est le mien, c'est-à-dire la France hexagonale, ce corpus et cette œuvre de Béville, qui a vraiment théorisé au même moment dans la décennie 50 et au début des années 60, avant de mourir. Il meurt quelques mois, après Fanon. Et dans ce contexte-là, il a une autre perspective, en quelque sorte, en termes de philosophie politique et de pensée de l'insurrection. Il a des positions un peu différentes de Frantz Fanon, qui, au même moment, Frantz Fanon, dans un texte, va écrire d'ailleurs sur le massacre de décembre 59 en Martinique, qui est le précédent par rapport à mai 67, et qui va dire, voilà, il y a une insurrection, il y a enfin un soulèvement des Antillais, puisque Fanon avait ces mots très durs, hein, dans Peau noire, masque blanc, en disant les Antillais, les Noirs guyano-antillais, en quelque sorte, ne se sont jamais libérés parce qu'on leur a donné, on les a émancipés, c'est le maître qui les a émancipés, et qu'en quelque sorte, il n'y a jamais eu de véritable affrontement. Et dans ce jugement très dur, en fait, de Fanon à l'égard notamment de l'homme martiniquais, il va avoir toujours cette idée que les Antilles, en quelque sorte, sont cette lutte, en quelque sorte, suspendue, qui va laisser dans des formes pathogènes, des formes politiques pathogènes, les mouvements. Et à ce moment-là, lorsque fin des années 50 et au début des années 60, Fanon écrit ce texte en disant, voilà, enfin, ça y est, c'est parti, il y a une révolution, l'indépendance est là, et il y a ce mouvement insurrectionnel, révolutionnaire, pour l'esprit national guyano-antillais. Et Béville va en quelque sorte aussi travailler cette idée, et va travailler par analyser pourquoi ces mouvements sont en quelque sorte toujours dans une forme extrême d'organisation, de patience, de production intellectuelle, parce que la répression en face, elle est une sorte de répression à la fois extrêmement brutalisante et meurtrière, qui abîme les corps, mais qui abîme la mémoire familiale, qui abîme l'idée même de faire mourir plusieurs fois les personnes. Mais elle a aussi une force idéologique qui est un rouleau compresseur, en quelque sorte, puisqu'elle passe par cette idée d'assimilation. Et d'assimilation à la République française, d'assimilation à la nation française, et qui, sur le cas Guyane, Guadeloupe, Martinique, va passer et par la répression brutale, le massacre des mouvements, avec des techniques de maintien de l'ordre d'ailleurs, qui sont vraiment, encore une fois, le ciblage, le fait de blesser les corps. Par exemple, il y a des récits de personnes qui n'étaient même pas dans la manifestation, de personnes qui passaient à Pointe-à-Pitre, qui traversaient la manifestation, et qui racontent que, en fait, il a reçu une balle dans la jambe droite, et il a vu le policier le cibler, le viser, et il a vu que le policier attendait qu'il fasse un pas pour tirer la jambe droite et pour le mutiler, en quelque sorte. Donc il y a une volonté de mutiler les corps, de marquer les corps sans qu'il ne soit jamais possible, vous voyez, d'être que justice soit faite, en fait. Donc vous restez dans l'idée d'un corps mutilé, d'une forme de mutisme également, de toute cette réappropriation de la mémoire et de la parole. Et puis, il y a donc cet arsenal idéologique, il va passer par une sorte de dispositif à 4 étages dont on peut comprendre qu'il y a des échos très forts aujourd'hui. C'est que dans cette décennie, à la fin des années 60, ou en tout cas à partir de la fin des années 50 et la fin des années 60, pour mater le mouvement indépendantiste guyano-antillais, on va mettre en place plusieurs dispositifs. La première chose, c'est qu'on va mettre en place un dispositif qui va passer par le service militaire. Le service militaire, c'est-à-dire on va créer un service militaire spécial pour les Domiens et qui va permettre d'enrôler toute une génération et de lui inculquer les valeurs de la République dans le cadre de services militaires qui sont l'ancêtre, en quelque sorte, de l'aide au développement. C'est-à-dire que les engagés dans ce service spécial vont aussi être sur l'idée d'aller construire des puits, d'aller reconstruire en cas de cyclone, etc. Donc cette idée de bon samaritain. On transforme, en quelque sorte, les Domiens en travailleurs gratuits, bon samaritain, et au service de la République. Ça, c'est, de toute façon, ça a toujours été. Le service militaire, c'est un catalyseur parce que ça ponctionne toute une génération de jeunes hommes. Et ça, c'est une gestion de la population, c'est une gestion biopolitique et c'est un incubateur idéologique, en fait. Vous mettez dans un même endroit et vous opérez une forme de propagande. Mais le service militaire, l'idée de ponctionner une génération, c'est aussi une gestion sociale de la reproduction, c'est-à-dire vous empêchez en quelque sorte ou vous retardez le moment de la conjugalité et de la sexualité. Donc il y a une gestion sociale de la reproduction et on va gérer complètement les corps sexuellement. Et au même moment, vous le savez, se met en place le Bumidom qui là vient ponctionner sur une génération les hommes qui sont principalement envoyés dans les mines, les chantiers navals, les ouvriers, notamment à Boulogne-Billancourt sur toutes les chaînes de montage automobile, et les femmes vont être principalement employées comme bonne à tout faire dans des familles, mais aussi sur, plus tard, l'organisation de services à la personne ou de fonctions publiques à moindre coût. Et ça aussi, il faut comprendre que l'État français s'est réservé un lumpen prolétariat noir, national, mais qui, en fait, était sur des grilles, des concours, etc., différenciés, et que en faisant de la migration forcée, là encore, vous empêchiez, en quelque sorte, l'essor démographique. Et vous retardiez en fait le fait de pouvoir se poser donc en termes de conjugalité. Donc ça, c'est migration, travail et service militaire. Et ensuite, il y a 2 autres choses qui restent et qui sont fondamentales. 3e chose, c'est une théorie très forte en termes de politique familiale et sexuelle, avec cette idée que c'est dans ces décennies que se met en place l'idée que il y a une dimension de la famille antillaise qui est dysfonctionnelle et qu'il s'agit d'un matriarcat pathogène, c'est-à-dire les femmes prennent le pouvoir, elles sont dans des dynamiques castratrices et c'est ce qui génère en quelque sorte de la délinquance, du chômage, etc. Et là, on est vraiment calqué dans une idéologie d'ailleurs qui naît plus exactement par des grands théoriciens démographes anglais, anglophones, états-uniens à la Barbade, à Puerto Rico, et qui vont élaborer cette thèse du matriarcat noir qui explique en quelque sorte l'inutilité d'un état social. C'est-à-dire qu'il est inutile de donner des allocations familiales, d'organiser la solidarité, parce que la famille est en soi dysfonctionnelle. Et ça, le pire qu'il y a dans cette théorie sur laquelle on pourrait en parler, je vais m'arrêter, mais le pire, c'est ce que ça fait, c'est que ça vient rendre toxique la mémoire de l'esclavage. Parce qu'en fait, dire que la famille guyano-antillaise est dysfonctionnelle parce que les femmes seraient au centre, c'est dire que c'est l'effet de l'esclavage. Parce que c'est l'effet, c'est la conséquence de l'esclavage. Ça veut dire que la mémoire de l'esclavage est devenue en quelque sorte une mémoire poison, puisque se référer, c'est en même temps adhérer à l'idée qu'il y a des formes dysfonctionnelles d'un point de vue sexuel, de genre, etc. etc. Donc il y a toute quelque chose à faire sur lequel voilà, le texte, moi j'ai consacré cette idée sur comment le patriarcat est une arme idéologique contre-insurrectionnelle. Et le dernier, et je m'arrête, je conclue là-dessus, parce qu'en fait, le livre s'arrête sur... c'est la fin de la canne à sucre, c'est le début de la banane. Et le début de la banane et de l'industrie touristique. En fait, surtout... La Guyane, c'est quelque chose, un cas c'est particulier, mais en ce qui concerne surtout la Martinique, puis la Guadeloupe, ça va être la monoculture de la banane qui remplace principalement la canne. La canne va rester sur les habitations, pour le rhum et pour le plus grand plaisir des touristes qui vont venir visiter les habitations avec la belle maison coloniale de maître et la rue des cases nègres qui deviennent des toilettes où on vend des glaces pour les touristes qui viennent goûter du rhum. Donc c'est cette idée, c'est cette articulation entre le tourisme, en faire des îles à tourisme, c'est faire mourir pour faire vivre d'autres vies touristiques, et c'est la banane et c'est le chlordécone, et c'est l'introduction du chlordécone et l'idée qu'en fait ce sont des vies que l'on fait à proprement mourir pour nourrir d'autres vies. Donc voilà le dispositif. Pardon, je suis allée très vite.
Merci beaucoup, c'était passionnant. Et surtout merci, parce qu'on parlait au début de la mémoire là, qui n'est pas transmise au sein de l'Hexagone. Et voilà, donc merci d'intervenir et de faire des livres pour transmettre ce savoir-là, parce qu'en effet, en Hexagone, on n'en parle pas du tout. Et merci d'évoquer aussi le Bumidome, qui est tellement peu connu. Et pour ça, il faut se référer à la BD de Jessica Oublié, qui est très, très bien. Et puis après, pour rebondir toujours sur Jessica Oublié, qui est une autrice guadeloupéenne sur son triste tropique, sur le chlordécone. J'avais simplement une question, parce que là, je vous avoue que je n'ai pas bien saisi, concernant le matriarcat et le continuum avec la mémoire liée à l'esclavage. J'aimerais bien que vous reveniez dessus, s'il vous plaît, parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien tout saisi. Merci.
Là, du coup, en fait, ça fait très longtemps que moi, je travaille sur le matriarcat noir et sur comme contenu idéologique. Voilà, vous lirez le texte si vous avez envie, parce que c'est plus détaillé. Mais aux États-Unis, dans les années, à la fin des années 50, au début des années 60, issus des thèses d'anthropologie... et en particulier d'ailleurs y compris d'une historiographie de l'esclavage et à partir également d'un certain nombre de préoccupations et démographiques dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire des populations qu'il y aurait une explosion démographique dans les Caraïbes et sur la question encore une fois anthropologique et de l'historiographie de l'esclavage va naître cette thèse du matriarcat noir. Cette idée que dans les sociétés caribéennes, c'est la femme qui, en quelque sorte, tient le foyer, c'est elle la référente et qui aurait une forme d'abandon des pères et un multipartenariat qui fait qu'il n'y a pas de structure familiale, entendez structure familiale bourgeoise, européenne, capitaliste, qui est imposée. Et ça va être très fortement repris aux États-Unis avec cette idée du matriarcat noir et de la représentation des femmes africaines-américaines comme des femmes castratrices, autoritaires et qui, en quelque sorte, sont dans des formes de continuité avec les régimes esclavagistes, puisque dans les systèmes esclavagistes transatlantiques, en ce qui concerne l'Atlantique moderne, l'Atlantique noir, tous les systèmes esclavagistes ont un système d'exception juridique, c'est-à-dire c'est le statut de la mère qui donne le statut de l'enfant. Et à partir de là, c'est cette idée que c'est à partir de la mère, en quelque sorte, que tout s'est organisé juridiquement et que la ligne entre population servile et population libre s'est instituée de façon très pernicieuse, puisque les hommes blancs, les colons, les métayers, etc., qui pouvaient violer les femmes esclavagisées ou les maîtres, dans le cas des viols des femmes esclavagisées, l'enfant issu de ce viol était esclave. Et que c'est bien précisément pour empêcher que les enfants issus de ces violences accèdent à du patrimoine que ça s'est mis en place. Donc cette idée du matriarcat noir dans les années 60-70 va être beaucoup utilisée aux États-Unis pour dire l'État social ne sert à rien. Ça n'a rien de donner des allocations familiales, ça n'a rien d'aider, parce que en fait, la famille dysfonctionne. Elle est pathogène, elle explique le chômage, elle explique la surnatalité et elle explique la délinquance. Et ça, la thèse, c'est de dire que c'est l'héritage de l'esclavage. Donc, si vous voulez, c'est un coup à deux bandes, en quelque sorte. C'est-à-dire, non seulement c'est de la gestion raciale de la sexualité et du corps et du ventre des femmes, mais c'est aussi, en quelque sorte, venir imbiber la question de la mémoire de l'esclavage, d'empêcher que cette mémoire de l'esclavage soit, en quelque sorte, dans des formes de mobilisation ou d'investissement révolutionnaire. C'est à cause de l'esclavage. Donc, il y a une reconnaissance de l'esclavage. Mais pour dire, on reconnaît l'esclavage, mais pour vous dire combien vous êtes dysfonctionnel. Voilà.
Moi, j'ajouterais même, si on peut se dire que c'est une technique idéologique de justification, elle est elle-même importée dans la répression des quartiers populaires avec le mythe de la démission parentale qui a été, qu'on revoit ressurgir régulièrement, même si maintenant l'angle d'attaque, c'est vraiment l'islam et le communautarisme pour justifier la répression. Mais vraiment, dans les années 80-90, c'était le principal système d'explication de tous les idéologues sécuritaires. C'est que si les jeunes se révoltaient, ce n'était pas à cause de la misère ou de la police, mais c'était parce qu'il y avait une démission parentale et qui elle-même est tombée du ciel. Enfin, c'était dans le magma culturel de ces populations, comme c'était dit. Mais on dirait vraiment qu'il y a le même processus là, d'importation et de réagencement d'un dispositif pour la gestion des quartiers populaires.
Ce qui va expliquer aussi l'idée de foule sauvage. Ce sont les fils qui ont grandi sans père, qui du coup sont dans des formes de masculinité, ensauvagées, etc. etc. Et cette idée de aucunement ne jamais reconnaître la dimension politique d'un soulèvement, d'une révolte, etc., et de le ramener en fait à de l'infrapolitique, spontané, violent, non structuré, et qui est qu'une forme en fait de délinquance poussée à son paroxysme. Juste, oui, parce que tout à l'heure, je m'aperçois que j'ai pas fini mon histoire sur l'avion l'accident d'avion dans lequel Justin Catayer et Albert Béville et d'autres leaders du mouvement étudiant martiniquais sont décédés, avec plus de 1500 personnes à son bord, dont la plupart des étudiants guyano-antillais revenus de métropole. Cet accident, le dossier a été classé secret défense pendant près de 50 ans. Ce qui fait que pendant près de 50 ans, dans la mémoire guyanaise, etc., ou martiniquaise, guadeloupéenne, la question est-ce que c'est un accident ou est-ce que c'est un attentat a hanté, en quelque sorte, et les familles et la mémoire des mouvements. Donc ça aussi, cette idée de rendre fou par cette question que vous laissez en permanence planer le doute. Donc je le disais tout à l'heure, soit vous vous êtes trouvé au mauvais endroit, soit on ne sait pas. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce qu'on cible ou pas? Ou est-ce que c'est un accident, etc.
Moi, si tu veux, je dis un mot sur l'histoire de racisme anti-blanc. Alors, anti-blanc, la notion, moi, je ne l'ai pas trouvée avant ça, mais parce que le mot blanc quasiment n'existe pas. Il est indicible jusqu'à il y a peu, en fait, hein, en vérité. Par contre, on a une notion de racisme anti-français qui est très présente dans la culture coloniale en Algérie dès les années 30, en fait, dès les premiers mouvements indépendantistes. Et ça va devenir quelque chose qui est très fort pendant la révolution algérienne, où en fait le pouvoir colonial, et ça pourrait paraître surréaliste, mais en fait quand on est dans les archives et qu'on le voit, c'est traité de manière régulière, c'est presque un des arguments principaux, c'est de dire en fait ces Arabes sont devenus racistes anti-français, ils veulent se séparer de nous, ils veulent plus des Français là, et donc il y a en plus une manière de complètement mystifier le rapport colonial, parce qu'en fait il n'y aurait pas une hiérarchie socio-racial de la société, il y aura juste une présence de Français et les Arabes en auraient marre de voir des Français là. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qui est très très présent dans la technologie de justification de la contre-insurrection en Algérie. Et pas besoin de s'étendre sur la manière dont dont le mythe du racisme anti-blanc est au cœur de la justification du système sécuritaire aujourd'hui, quoi.
Et dernière chose aussi, en fait, là, il y a eu le préfet Bolot et Mathieu, du coup, refaisait sa circulation, mais sur toujours cette décennie 50-60, en reprenant tous les préfets en poste en Martinique et en Guadeloupe, j'ai retracé, en fait, à ce moment-là, les préfets, les responsables pour les DOM sur justement le ministère des Outre-mer, etc., ont tous des liens avec l'Algérie française. Et pour la plupart, ont été même très impliqués dans l'OAS et parmi même les piliers de l'OAS. Et on s'aperçoit qu'il y a tout... Mais c'est pas... Enfin, moi, j'escavais et plus ça, je me disais, mais c'est pas possible. Ça arrivait en permanence, la circulation en fait transatlantique entre l'Algérie française et les Antilles. Mais en fait, quand on va un peu plus loin, on voit que c'était une vraie politique recyclage de cette administration coloniale algérienne et de l'Algérie française sur les territoires domiens, en particulier en Guyane, en Guadeloupe et en Martinique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu et les troupes, et les préfets, et les militaires qui sont allés se faire oublier ou faire leurs armes ou avoir une promotion sur les territoires caribéens. Donc, voilà. Et précisément parce qu'il y avait une répression indépendantiste qui ne pouvait pas refaire l'Algérie. On ne pouvait pas se permettre d'avoir une nouvelle Algérie.
Et l'autre partie, bon, pareil, qui est documentée maintenant de tout ça, mais donc une grande partie des OAS donc, qui vont gêner le pouvoir en France parce que justement, ils ont réutilisé la contre-insurrection, mais contre le bloc gaulliste. Une partie va être envoyée en Afrique noire, donc une partie par exemple au Cameroun, et vont organiser la guerre du Cameroun. Donc là, vous avez un ouvrage, notamment Thomas Deltombe a travaillé longtemps dessus. Enfin, il y a deux ouvrages qui racontent ça avec une exportation. Une autre partie, on va les retrouver en Amérique du Sud et notamment en Argentine et au Brésil. Et bon, voilà, donc c'est pas juste. Enfin, il y a un recyclage du fascisme colonial qui a lui-même été fabriqué par la machinerie coloniale. Et à ce sujet-là, on avait envie de vous lancer un petit peu dessus, mais on n'a pas travaillé dessus, mais on en discutait tout à l'heure par rapport là à l'opération militaro-policière que Darmanin prépare à Mayotte. Du peu de choses qu'on a pu en lire et de ce qu'on en sait, il va très certainement y avoir des choses qui vont résonner entre ce qu'on raconte dans ce livre et ce qui va se passer là-bas, c'est-à-dire un quadrillage militaro-policier de l'espace, chasse à l'homme, avec des contrôles d'identité industrialisés. Voilà, apparemment, il y a des notes qui ont été transmises aux enseignants pour leur dire que des enfants vont disparaître des classes. Bon, ça va être quelque chose qui va être extraordinairement brutal et il y aura certainement des résistances. Il y a d'ailleurs déjà un collectif qui a été mis en place contre cette opération-là, un collectif là-bas.
Tu peux peut-être nous en dire deux mots de l'opération ?
J'en sais ça, c'est que, et dans la carrière de Darmanin, c'est quelque chose d'important parce qu'il joue un petit peu sa crédibilité de premier ministrable ou quelque chose comme ça, voire sans doute qu'il espère même aller plus loin que ça. Et comme on se l'est dit depuis le début, dans les carrières des préfets et des hauts cadres de l'État, le territoire colonial est un terrain de valorisation. Et voilà. Et il y a un enjeu aussi qui est aussi dans cette espèce de politique de drague de l'extrême droite continuelle, mais pas juste de drague en fait. Il est lui-même le produit de ça. Hein. Ancien des réseaux d'Action française, etc. Et jusque dans son idéologie, dans ses pratiques, il y a un chevauchement avec l'extrême droite. Et qui du coup a priori un plan là d'intervention de rafle des personnes sans papier à Mayotte pour les expulser. Et voilà, donc là, avec toute une série d'unités de police, unités spéciales, je crois que le RAID est déjà sur place, il y a la CRS-8 qui est envoyée. Voilà, et il y a aussi des résistances, et il faut enquêter sur le sujet, parce que moi, j'ai pas d'autres choses à vous dire que ce que j'ai pu en lire là, mais parce qu'on a peu de choses, en fait, il faut enquêter. Et sans doute un enjeu fondamental à être aux aguets, de toutes les manières qu'on va pouvoir trouver d'appuyer par de la solidarité concrète les résistances qu'il va y avoir sur place, que ce soit en portant la voix, en faisant circuler les communiqués, l'existence de ce collectif déjà, et puis certainement qu'il y a des choses à faire ici, peut-être au cœur là, du mouvement en cours, de lier les problématiques, tout comme il semble fondamental par rapport à toutes les choses qu'on s'est dit, de lier les problématiques, je parle là par rapport au mouvement sur les retraites, de lier la question de la loi Darmanin à la réforme des retraites, parce que c'est comme à l'époque de la loi sécurité globale, qui était complètement articulée avec la loi sur le, comment ça s'appelait, sur le communautarisme, sur le séparatisme, où du coup ils avaient séparé artificiellement l'aspect racial de la globalisation sécuritaire. Bon, bah là, il y a le même piège dans lequel il faut pas tomber. Il y a un enjeu, même en termes de construction de solidarité internationaliste de long terme, à être à la hauteur de ce qui va se passer là.
Bon, mais s'il n'y a pas... J'ai une dernière question.
Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots de l'écho chez les intellectuels métropolitains de ces épisodes et de ce phénomène aux Antilles?
D'abord, pour un des axes aussi de répression, ça a été de contrôler justement les intellectuels, de les surveiller, de les ficher. Des fonctionnaires aux Antilles, notamment à Schœlcher, par exemple le père d'Edwige Plenel, qui était recteur en Martinique en 59, a été destitué, ramené en France de force, etc. Enfin, c'est des procédures vraiment qui attaquent les fonctionnaires et qui vont interdire à un certain nombre d'intellectuels guyano-antillais, par exemple, le territoire aux Antilles ou en Guyane. Donc il y a d'abord les intellectuels sur place et puis les fonctionnaires. Et l'idée qu'il faut contrôler absolument des deux côtés, en quelque sorte, l'université. Parce que c'est là où, si les textes circulent, si la mémoire circule, si les bibliothèques circulent, en fait, c'est un catalyseur de conscientisation politique. Et donc il y a aussi des formes maintenant qui ne sont pas voulus ou planifiés, mais il y a aussi dans cette idée que, par exemple, toutes les problématiques coloniales, décoloniales, on a des bibliothèques qui sont elles-mêmes, qui réifient et reproduisent elles-mêmes l'invisibilité et la minoration de toute la bibliothèque guyano-antillaise, indépendantiste, décoloniale, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est des strates d'abord il y a du contrôle et il y a du contrôle idéologique et voilà, il y a des formes, les indigènes, le wokisme, ça c'est des interdits qui sont des contrôles clairement sur les contenus de savoir, sur les bibliothèques, sur les enseignants, des menaces. Mais ensuite, à l'intérieur, par exemple, du champ des études coloniales, décoloniales, de l'histoire même de la littérature guyano-antillaise, des études noires en France, la Caraïbe francophone, la Guyane francophone est complètement invisibilisée. Et ça, c'est donc voilà, il y a ce il y a aussi des formes de, je sais pas comment on pourrait dire, d'abord d'hégémonie de la bibliothèque anglophone et nord-américaine sur ces questions, mais y compris dans la façon dont on se situe dans les perspectives critiques en France hexagonale, ce pas vers provincialiser la France ne s'opère pas. Donc il y a aussi des formes d'élitisme dans les pensées critiques qui réinstituent des centres et des périphéries.
Merci beaucoup. Merci Mathieu, merci Adrien. Bonne soirée.
C'était « Rencontre avec Elsa Dorlin et Mathieu Rigouste » autour du livre coécrit avec Jean-Pierre Sainton, « Guadeloupe, mai 1967, massacré et laissé crever », paru aux éditions Libertalia.
Radio Livre 2.